Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio. Après une matinée de consultation, il est là pour prendre soin de vous, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la croissance des enfants et surtout aux troubles qui peuvent parfois la perturber. Comment savoir si son enfant est dans la moyenne, s'il n'est pas trop petit? C'est la principale inquiétude des parents. Alors justement, quand faut-il les faire consulter et comment prend-on en charge ceux qui ont un réel problème? Pour en parler dans le détail, nous recevrons le docteur Mélanie Amouyal, qui est pédiatre endocrinologue à Paris et à l'hôpital Robert-Debré. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous parlerons cet après-midi d'une maladie qu'on imagine oubliée, puisqu'elle sévissait chez les marins au XVIIIe siècle. Je vous parle du scorbut. Eh bien non, bien que très rare, cette maladie provoquée par une carence en vitamine C existe toujours. Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question des pensées parasites qui peuvent parfois perturber les rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour bien démarrer cette émission, ce magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va écouter la première question, c'est celle d'Antoine.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Alors il paraît que le ministre Darmanin veut faire interdire les cartouches de protoxyde d'azote que certains adolescents utilisent pour se droguer. Est-ce que justement vous pourriez nous rappeler les dégâts que ça peut causer, histoire de faire un peu de prévention auprès des enfants s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup, bonne émission.
Alors Jimmy, sujet sérieux, hein, avant de répondre à Antoine, peut-être que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs quelles sont les, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, l'utilisation, la principale fonction, on va dire, première de ces cartouches de dioxyde d'azote.
Alors le protoxyde d'azote, donc le gaz hilarant, à la base, il a une utilisation industrielle, il sert à faire les siphons dans les chantilly, dans les ballons, mais aussi un usage médical, mais un usage médical particulier, puisque ce protoxyde d'azote est dilué avec de l'air, donc vous avez la moitié d'air et la moitié de protoxyde d'azote, et il est utilisé pour les sédations légères, lorsque vous avez des soins dentaires parfois douloureux, on peut en faire. Lorsque chez les enfants, il faut suturer une plaie, on leur met ce masque, ce gaz hilarant qui fait qu'on est conscient, mais un peu avec le cerveau déconnecté. On voit les petits éléphants roses en quelque sorte. Et puis aussi chez les adultes, on peut le faire lorsque vous avez une luxation d'épaule aux urgences. On va réduire cette luxation avec ce gaz qui est hilarant et donc qui a un effet sur le court terme lorsqu'il est bien utilisé.
Et donc dans un cadre médical strict ou pour les siphons de chantilly, vous disiez donc on peut en trouver partout et c'est bien le problème. Alors on va répondre justement à Antoine qui veut faire de la prévention chez lui. Quels sont les risques, on va dire, plus ou moins graves quand les jeunes détournent ces cartouches de leur utilisation première?
Alors il y a un problème parce que le message ne passe pas. Ça fait quasiment 6 mois qu'on en parle, qu'on essaie d'alerter les jeunes et donc effectivement ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte.
On en voit partout dans les parcs,
et on
par terre,
en voit partout par terre et ça continue. Donc il faut croire qu'il y a un échec de notre pédagogie à expliquer les risques, parce que souvent on dit vous avez un risque de brûlure au niveau des lèvres, de malaise, de vertige, ça fait peur à personne.
Enfin, moi, ça me fait déjà peur, mais bon.
Mais non, un jeune adolescent de 15-16 ans qui est en recherche de sensations, d'adrénaline, de quête de risque, eh ben, il ne va pas avoir peur. Et donc, par contre, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'une utilisation chronique répétée, c'est ce qu'ils font, entraîne une perturbation de la vitamine B12 qui va entraîner un problème au niveau de la moelle, celle qui va contrôler les nerfs. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une sclérose combinée de la moelle. C'est comme si vous aviez une sclérose en plaques liée à l'inhalation du protoxyde d'azote, sauf que cette sclérose en plaques peut régresser à l'arrêt de la consommation, mais elle peut persister, et c'est déjà arrivé en France, des jeunes gens sont restés paralysés à cause du gaz hilarant. Donc il est important de faire un message de prévention, peut-être en commençant par les écoles.
Donc pensez que interdire effectivement leur vente, au moins aux mineurs, en tout cas, ça serait déjà une bonne chose selon
vous?
Oui,
mais c'est compliqué parce que ça s'achète sur Internet, on a des usages détournés, les cartouches de chantilly, donc c'est très compliqué. Peut-être qu'il faut de la fermeté et aussi de la pédagogie.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est celle de Clélia, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai plein d'aftes dans la bouche, 5 ou 6 à chaque fois. C'est horrible pour manger, pour parler, c'est désagréable et ça revient régulièrement. À quoi ça peut être dû? Merci pour votre aide, au revoir.
Alors déjà, un aft, bon moi je sais pas quand j'en ai un, déjà ça fait, c'est pas très agréable je trouve pour manger, etc. Alors quand on a 5 ou 6 dans la bouche comme Clélia, est-ce que c'est quelque chose de fréquent d'ailleurs d'en avoir autant?
Alors l'épisode d'avoir un aft au cours de sa vie
tout
est très fréquent,
ouais,
c'est plutôt fréquent chez les enfants jusqu'à l'âge de 50 ans, plus ça s'améliore. Mais effectivement chez certains, ils vont faire des épisodes récurrents, 6 épisodes par an d'aft pour lesquels on n'a pas forcément d'explication. On en a d'autres qui vont faire, on appelle ça des aftes miliaires avec 50 à 100 aftes
dans la
qui font moins d'un millimètre et parfois des aftoses géants de 1 à 2 cm. C'est des formes plutôt rares, mais pour lesquelles parfois on n'a pas d'explication.
Alors à quoi c'est dû quand on en a 5 ou 6 ou 50, comme vous dites?
Alors dans un premier temps, l'aphtose classique, c'est souvent dans un contexte de stress, de fatigue, ou quand on a des problèmes dentaires avec des prothèses qui sont mal mis. Mais aussi, on peut avoir des aliments comme les noix, les cacahuètes, le gruyère, la tomate, la fraise, qui peuvent être responsables d'aphte. Et puis certains médicaments, comme les anti-inflammatoires.
Moi, c'est l'ananas qui me fait ça,
l'ananas, ça me fait des aphtes. Voilà, ça peut donner des aphtes. Les médicaments, les anti-inflammatoires, les bêta-bloquants. Et puis, il y a d'autres causes un peu plus rares, mais qu'il convient de rechercher, raison pour laquelle il faut aller voir votre médecin. Si jamais vous avez des carences en vitamine B12, dont je parlais tout à l'heure, une carence en fer, mais ça peut être aussi révélateur d'une maladie cœliaque, ou si jamais vous avez ces aphtes avec des sels liquides, ça peut être révélateur d'une maladie de Crohn ou de maladies auto-immunes un peu plus rares. Bref, si vous en avez de temps en temps, c'est pas très grave, mais si c'est récurrent, il convient de voir votre médecin puisqu'il vous prescrira un bilan à ce moment-là.
Je vais vous dire, bon, un bilan, et puis bon, il y a un traitement quand même quand on en a 5 ou 6 dans la bouche comme Clélia.
En principe, il n'y a pas de traitement, sauf quand vraiment c'est récidivant, c'est une forme très particulière qui nécessite un avis spécialisé. Et dans ces cas-là, on peut avoir recours aux corticoïdes sous forme locale, en bain de bouche ou sous forme de comprimé, mais là, c'est vraiment un avis spécialisé.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Clélia qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Mélanie Amouyal. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris en cabinet et à l'hôpital Robert Debré. Et avec vous, on va parler de la croissance des enfants aujourd'hui. Alors on va parler peut-être du début déjà. Et un enfant à la naissance, il fait en moyenne 50 cm. Alors chez les Jimmy Mohamed, chez les Mohamed, peut-être ils sont plus grands, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est la taille moyenne d'un enfant. Est-ce qu'il y a des enfants, après on sait qu'il y a des petits, des plus grands, est-ce qu'il y a des enfants qui dès la naissance ont un problème de croissance? C'est possible ou est-ce que c'est quelque chose qu'on détecte plus tard?
Oui, alors c'est possible. C'est ce qu'on appelle des retards de croissance qui peuvent être détectés même sur les échographies. C'est un des paramètres qu'on surveille pendant la grossesse. Et donc, c'est possible. Il y a des enfants qui peuvent avoir des retards de croissance, soit d'une fait d'une pathologie de l'enfant ou d'une fait plutôt d'une pathologie maternelle comme une hypertension ou des problèmes vasculaires.
Jimmy ?
Alors un enfant, ça grandit vite. Je pense que même Mélanie aurait pu constater ça. Mais...
Moi, je n'ai pas grandi. Je me suis arrêtée vite.
Mais ça grandit très vite. Durant les deux premières années, combien de centimètres un enfant prend au tout début? Enfin, dans les premières années
Oui, c'est ça. En fait, il y a 4 phases au niveau de la croissance. Donc la croissance fœtale qui est la plus rapide, 50 centimètres à peu près en 9 mois. Et pendant les deux premières années, on grandit encore très vite. 25 centimètres en moyenne la première année et 12 la deuxième année. Et puis ensuite, ça se régularise beaucoup. C'est beaucoup moins vite, quoi. De 4,5 cm à 6 cm par an pendant toute l'enfance jusqu'à la puberté où là de nouveau il y a un pic de croissance avec une vitesse de croissance plus importante.
Alors jusqu'à 2 ans, on le sait, on va bon en tout cas au moins tout petit bébé jusqu'à 1 an, on y va tous les mois, on pèse, on mesure son bébé, on a compris l'intérêt. Mais à partir de 2 ans, on va dire, et quand ils sont un peu plus grands, tous les combien est-ce qu'il convient d'ailleurs de faire surveiller cette croissance très régulièrement? Si oui, à quel rythme, jusqu'à quel âge?
Alors, il faut que ce soit surveillé pendant toute la croissance, hein, donc jusqu'à la fin de la croissance, et au moins une fois par an.
Si jusqu'à l'âge de 2, jusqu'à...
Oui, c'est ouais. Ça, jusqu'à 2-3 ans, un peu plus souvent. On va espacer, au début, on va y aller tous les mois, après tous les 2-3 mois, tous les 6 mois. Et à partir de 2-3 ans, tous les ans, c'est bien. Voilà, tant qu'il n'y a pas de soucis, parfois il y a besoin d'y aller un petit peu plus souvent.
Jimmy ?
Et parfois, c'est compliqué pour les parents de se retrouver. Est-ce que mon enfant grandit suffisamment ou est-ce qu'il prend suffisamment de poids ? Il faut tout simplement peut-être regarder la courbe de croissance. Je crois que les valeurs ont été un peu modifiées. Il y a eu une explication à ça ?
Oui, c'est ça. Les courbes de croissance ont été réévaluées et ont changé dans les carnets de santé en 2018 parce que les courbes qui figuraient avant étaient des courbes qui étaient anciennes, qui dataient des années 70 et qui avaient été faites seulement sur des enfants de la région parisienne. Donc, on savait que ça ne représentait pas vraiment tous les enfants français. Donc, ça a été réévalué.
À la hausse, je crois que nos enfants sont plus grands que les enfants des années 70.
Alors, ils sont un petit peu plus grands dans l'enfance. Le pic de croissance pubertaire est en fait un peu plus étalé, un peu moins important. Les tailles finales ne sont pas très, très différentes.
D'accord, mais nos enfants sont un petit peu plus grands. Et en plus de ce suivi chez le pédiatre, vous disiez donc une fois par an, à peu près de 2 ans jusqu'à la fin de la croissance. Est-ce qu'à la maison, ça vaut le coup de... Moi, je sais qu'on a une petite toise. Alors, de temps en temps, ils aiment bien qu'on aille mettre un petit trait chez les Gomez, en tout cas. Mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut le faire de mesurer aussi à la maison un petit peu les enfants de temps en temps?
En oui, dehors de l'amusement, je veux dire.
Oh, je pense qu'une fois par an, ça peut suffire, parce que surtout que les toits ne sont pas les mêmes à la maison, chez le pédiatre, etc. Après, oui, je pense que pour les enfants, ça peut aussi être important de le faire de temps en temps, sans en faire quelque chose de trop important.
Pas une fixette non plus. Mmh. Jimmy ?
Je constate souvent, à ma grande déception, que les carnets de santé ne sont pas remplis au niveau de la courbe de croissance, et on me dit, mais le pédiatre ne l'a pas fait. À qui doit le faire ? Le médecin ou le parent, qui a le droit de prendre aussi un papier, enfin un petit crayon, et mettre des petites courbes ? Est-ce que c'est vraiment important d'ailleurs d'avoir cette courbe de croissance ?
Oui, alors la courbe de croissance effectivement est très importante pour évaluer les choses. Le pédiatre, en fait maintenant de plus en plus on a des logiciels dans lesquels nous on fait la courbe de croissance et c'est vrai que peut-être du coup on reporte un petit peu moins les points sur la courbe qui est dans le carnet de santé. En revanche, normalement c'est écrit. À chaque visite, on écrit la taille. Donc oui, les parents peuvent tout à fait la faire eux-mêmes dans le carnet de santé avec les données qui sont notées.
Puisqu'on parle de la base donc, autour de la croissance des enfants, je crois qu'il y a différents facteurs qui influencent cette croissance. La génétique, bien sûr, des parents grands en général et ont des enfants grands. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs hein, qui l'influencent, lesquels ?
Oui, alors donc les facteurs qui sont propres à l'enfant, c'est effectivement la famille, la taille des parents, l'ethnie et puis la taille à la naissance qui va aussi jouer par la suite. Et puis après, il y a tous les facteurs extérieurs, donc la nutrition.
La taille à la naissance, ça veut dire quoi ? Qu'un bébé qui faisait 42 ou 44 cm à la naissance, il sera forcément petit adulte ?
Il ne sera pas forcément petit adulte, mais on aura une vigilance un peu plus importante pour ces enfants-là parce qu'on sait qu'il y en a un certain nombre, oui, qui vont rester un peu petits et on en reparlera plus tard ou qu'il peut y avoir une indication au traitement par hormone de croissance pour cela.
Et vous disiez le sommeil aussi, peut-être pour les enfants, ça joue ?
Le sommeil, oui, ça joue. Alors, l'hormone de croissance, elle est produite de façon plus importante pendant le sommeil, en fait, pendant certaines phases de sommeil. Donc, c'est vrai qu'un sommeil de bonne qualité, c'est important.
Jimmy, une dernière question ?
Est-ce que le problème de croissance peut révéler un autre problème secondaire ou ça peut être juste isolé, on a un problème de croissance parce qu'on a un problème de croissance.
Alors les deux sont possibles, effectivement, quand on fait des bilans, quand on pense qu'il peut y avoir un problème au niveau de la croissance, on fait d'abord un bilan général pour effectivement détecter un problème autre qui pourrait avoir pour retentissement une anomalie de la croissance. Et après, il y a des anomalies spécifiques de la croissance.
Merci beaucoup, docteur Amouyal. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sur notre plateau aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Mélanie Amouyal. Vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris en cabinet à l'hôpital Robert Debré. Et à présent, on va passer donc aux troubles de la croissance avérés chez les enfants. Justement, j'imagine que des parents qui arrivent dans votre cabinet avec un enfant, alors j'imagine le plus souvent qu'on pense trop petit, je pense que c'est le motif peut-être principal,
oui,
non,
c'est
de consultation.
Oui, c'est
ça. Il y en a beaucoup. Et est-ce qu'ils ont vraiment des problèmes de la courbe de croissance, ces enfants-là ?
Alors déjà, il y a deux types de consultations. Il y a les parents qui consultent d'eux-mêmes et il y a ceux qui sont envoyés par leur pédiatre. Alors c'est vrai que les enfants envoyés par le pédiatre, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été détecté en amont. Donc je vais être un peu plus amenée à faire des bilans. Quand les parents amènent l'enfant, voilà, quelquefois c'est juste pour être réassurée, pour qu'on leur explique.
Et la petite taille, c'est vraiment le motif principal. C'est mon fils est plus petit que les autres, ou ma fille.
Vous voulez dire dans les consultations d'endocrinologie ?
Quand ils viennent, les parents avec des enfants comme ça, une inquiétude, c'est souvent à cause d'une petite taille.
Oui, enfin, c'est pas le seul motif, mais c'est un motif très fréquent. Oui,
j'imagine
oui.
qu'on ne consulte pas parce que son enfant est trop grand ou le plus grand de la classe.
Alors, ça arrive, mais beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a un moyen simple qu'on peut utiliser pour savoir combien pourra mesurer notre enfant, un petit calcul, parce que c'est le rêve de tous les parents.
Ouais. Est-ce qu'il on m'avait dit à 2 ans, on multiplie par 2, mais je crois que c'est faux.
Alors oui, non, ça marche pas. C'est très difficile, même pour nous, avec plusieurs paramètres, de pouvoir déterminer la taille à l'âge adulte, parce qu'il y a plein de choses qui vont influer. Donc forcément, plus on s'approche de la fin de croissance, et plus on va pouvoir l'estimer. Alors nous, les repères qu'on a pour savoir si la croissance d'un enfant est normale, c'est donc les courbes de croissance. Donc dans un premier temps, est-ce que l'enfant grandit régulièrement ? Est-ce qu'il suit régulièrement une ligne, un couloir sur la courbe de croissance ? Et la deuxième chose, est-ce que c'est à peu près en rapport avec sa taille cible génétique ? Donc la taille cible génétique, c'est un calcul qu'on fait avec la taille des parents.
Expliquez-nous lequel.
Alors
le calcul, s'amuser à le calculer,
hein. il apparaît maintenant sur les nouvelles courbes de croissance. Donc c'est la taille du père plus la taille de la mère, plus 13 pour les garçons, moins 13 pour les filles, divisé par 2.
D'accord, la taille du père, la taille de la mère, on ajoute ces deux-là, on ajoute plus 13 si c'est un garçon, moins 13 si c'est une fille, et
C'est on bon. Divise par deux.
Et on divise par deux. Très voilà. bien. Et on
donc,
a la taille.
Voilà. Donc ça, c'est pas la taille que fera l'enfant, mais c'est un repère qu'on utilise. L'enfant est censé arriver à peu près dans cette taille-là. Et donc, on regarde si sa croissance actuelle est à peu près en rapport avec ça ou pas. Parce que forcément, si les parents sont plus petits, on s'attend à ce que l'enfant soit un peu plus petit.
D'accord. Alors, pour les autres qui sont quand même plus petits, enfin, pour les enfants qui sont plus petits que les autres, mais sans que ce soit pathologique, on va dire, puisque vous en renvoyez pas mal chez eux en disant finalement tout va bien. Est-ce qu'il y a quand même des choses, alors là on est hors du pathologique, qui peuvent permettre à des enfants de grandir plus vite, je sais pas, faire des étirements, faire du basket, est-ce que ça fonctionne ou pas?
Alors non, au niveau du sport pas vraiment. Après oui, il y a des conseils en fait qui sont des conseils qu'on pourrait donner un peu à tous les enfants, qui sont d'avoir une bonne hygiène de vie, donc de bien dormir, d'avoir une alimentation équilibrée, suffisante, variée, avec une petite attention particulière sur les apports en calcium, tous les produits laitiers qui sont importants pour la croissance, et supplémentés de façon épisodique en vitamine D.
D'accord, ça c'est la base pour voilà. bien grandir.
Le
on va
sport
dire.
De façon modérée, pas de sport trop intensif. Voilà.
Ça peut casser la croissance, ça peut un peu couper la...
Certains ouais. sports vraiment de façon très intensive.
D'accord. Pas... Jimmy, ça vous risquez rien, vous allez grandir encore longtemps.
Exactement, j'aurais pas de problème à ce niveau-là. Une fois que vous suspectez un problème de croissance, je suppose que vous prescrivez des examens complémentaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme examen en routine?
Alors, on fait un bilan biologique de base, donc un bilan général, on le disait tout à l'heure, pour éliminer voilà, une prise de sang dans laquelle il y a à la fois voilà, rechercher une pathologie générale, certains dosages hormonaux. Et puis, on peut faire une radio de la main gauche qui s'appelle la radio d'âge osseux, qui nous donne une idée du potentiel de croissance.
Et elle montre quoi cette radio? Alors par exemple un enfant, je dis n'importe quoi, un petit enfant de 6 ans, vous allez regarder son âge osseux, et vous allez voir qu'il n'est pas en adéquation. Par exemple, il peut avoir un âge osseux de combien? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette radio très concrètement?
Alors en fait, on regarde s'il y a un décalage avec l'âge, ce qu'on appelle l'âge civil de l'enfant. Alors ce paramètre en fait tout seul n'est pas très pertinent. Après, c'est un faisceau d'arguments avec le bilan biologique, la clinique qui peut nous orienter vers certaines pathologies.
C'est plutôt bien. Donc, un enfant qui a 4 ans d'âge osseux.
Oui, voilà, un
âge
osseux en retard, ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance plus important que ne le voudrait l'âge de l'enfant.
Jimmy ?
D'ailleurs, à partir de quel âge on suspecte un retard de croissance ? Est-ce qu'il y a un âge à ne pas dépasser, à partir duquel les traitements sont moins efficaces ? Quel est le bon moment pour venir vous voir en consultation si le pédiatre pense qu'il y a un souci ?
Oui, alors ça dépend vraiment de la situation. C'est vrai que quand il y a un ralentissement franc de la croissance, il n'y a pas d'âge. Hein. Si on détecte un ralentissement, il ne faut pas attendre. Après, de façon un petit peu plus générale, il faut consulter vraiment avant la puberté.
Hein, parce ça, c'est important quand même.
Ouais,
hein, après, c'est trop tard.
Après, c'est trop tard, ouais. Et même pendant la puberté, c'est déjà un peu tard.
Donc l'idéal, je ne sais pas, pour un garçon 7-8 ans, c'est bien 10
voilà,
ans
voilà, 7-8 ans, ouais. En fonction de la situation.
Est-ce qu'on peut amorcer le traitement n'importe quand, même quand la puberté a démarré? Non, c'est trop tard.
Alors le traitement peut être amorcé n'importe quand, mais son efficacité ne sera pas la même en fonction de l'âge auquel on le met en route.
On va y venir. Docteur Amouyal, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invitée, c'est vous, Mélanie Amouyal. Vous êtes donc médecin pédiatre endocrinologue à Paris et à l'hôpital Robert Debré. On parle des enfants aujourd'hui qui ont des problèmes de croissance. On va s'arrêter sur ceux qui, plus précisément, ont un problème qui ne sécrète pas peut-être assez d'hormones de croissance. Une fois qu'on a fait le bilan dont on a parlé tout à l'heure, comment on prend en charge ces enfants trop petits dans votre cabinet?
Oui, alors juste sur le bilan va pas permettre de faire le diagnostic. En général, il faut ensuite des examens un petit peu plus poussés qui se font à l'hôpital. Et donc, effectivement, chez les enfants qui ont un déficit en hormones de croissance avéré, on va proposer un traitement par hormones de croissance.
D'accord. Et ça peut être autant pour les filles que pour les garçons. Vous le proposez aux deux sexes, hein, je veux dire.
Oui, bien sûr. Autant les filles que pour les garçons. Et il n'y a pas d'âge particulier. Chez certains bébés même, où le déficit en hormones de croissance n'est pas isolé, mais combiné à des syndromes, ça peut être dès la naissance.
Et vous faites ça des fois sur des enfants de 3 ans aussi? Parce que bon, à la naissance, quand il y a un problème, je comprends. Mais 3-4 ans, on se dit, bon, ils sont petits encore.
Ça peut, ouais. Ça dépend vraiment de la cause, mais ça peut. Oui,
d'accord.
Oui.
Jimmy?
Du coup, on remplace cette hormone de croissance, on va la porter de façon artificielle, mais sous quelle forme? Comment est-ce qu'on donne à un enfant une hormone de croissance?
Alors, l'hormone de croissance, elle se donne que d'une seule façon, c'est par des injections quotidiennes.
Quels sont les enfants, juste on revient sur les indications quand même précisément, quels sont les enfants pour qui c'est vraiment indiqué?
Alors, les indications qui ont ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ce sont effectivement les déficits en hormones de croissance avérés. Les enfants donc, qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, c'est-à-dire à la naissance, et qui n'ont pas rattrapé ce retard à l'âge de 4 ans et qui restent franchement en dessous des courbes. Et puis ensuite, il y a des causes un peu plus rares, des syndromes génétiques assez particuliers.
Mmh. Jimmy ?
Et du coup, cette hormone, donc, vous avez dit, c'est par injection, mais qui l'a fait ? Les parents, une infirmière ? Ça se fait tous les jours, pendant combien de temps ?
Oui, alors c'est une technique d'injection qui est simple. Donc en général, c'est initié avec une infirmière, par exemple à l'hôpital, où on montre comment on fait l'injection. Et ensuite, c'est les parents qui prennent le relais. L'enfant, en fonction de son âge, peut aussi le faire tout seul. Et après, de façon un peu plus épisodique, s'il y a besoin, une infirmière peut les faire. Mais en général, ce n'est pas nécessaire.
Vous dites qu'on montre aux parents ou à l'enfant comment on fait ces piqûres-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même ? C'est quelque chose de simple. Ça se fait en musculaire, à quel endroit du corps ? Avec quel type d'objet ? C'est une seringue ?
Non, c'est ce qu'on appelle des stylos. C'est
comme les diabétiques,
exactement. Où on met une petite aiguille tout petite. Donc, c'est des injections sous-cutanées.
Donc, dans la cuisse, par exemple ? Dans la fesse ?
Oui, il y a plusieurs. Ouais. Ça peut être dans la cuisse, dans les bras. Enfin, ça, on explique bien les zones. Il faut bien varier les zones sur lesquelles on fait les injections.
Pourquoi il faut varier ?
Parce que si on fait toujours au même endroit, il peut y avoir des petites boules qui apparaissent sur la peau qui fait qu'ensuite le produit est moins efficace.
D'accord. Jimmy ?
Et du coup, on continue le traitement plusieurs mois, plusieurs semaines. Quand est-ce qu'on décide d'arrêter en se disant bon, ça y est, il a rattraper un couloir, puisque si on manque d'hormones de croissance, il n'y a pas de raison que ça soit synthétisé de nouveau. Donc, est-ce qu'on continue jusqu'à l'adolescence ?
Alors, oui, c'est vrai que le traitement par hormones de croissance, quand on le met en place, c'est en général un traitement qui est très prolongé. Donc, on réévalue de toute façon toujours son efficacité au bout d'un an. Mais si c'est efficace, la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui va être mis en place pour toute la croissance, donc plusieurs années.
Vos petits patients en cabinet qui commencent, je ne sais pas, à 7-8 ans, on va dire, ils se traitent jusqu'à 17 ans, par exemple ? Ça peut être 10 ans de traitement, c'est possible ?
Ça peut, oui, c'est tout à fait
en moyenne,
possible.
C'est combien dans votre cabinet, la durée maximum, on va dire ?
Non, ça dépend vraiment de l'indication et de l'âge auquel on met le traitement. Mais c'est vrai que moi, je préviens toujours que quand on le met en route, en général, c'est pas une fois qu'on a rattrapé, parce qu'on a une efficacité sur la première année, l'enfant va rattraper. En fait, il ne faut pas arrêter, parce que sinon, on perd le bénéfice.
Il ne va pas rapetir, l'enfant, quand même.
Non, mais il va grandir moins vite et on va perdre le bénéfice de ce qu'on a fait avant.
Jimmy ?
Parce que du coup, avec un traitement par hormone de croissance, on peut espérer avoir une croissance normale du coup et avoir finalement une taille normale en termes de fréquence.
Oui, alors encore une fois, ça dépend vraiment de la cause du retard de croissance. Dans les vrais déficits en hormones de croissance profond, oui, on peut espérer rattraper une taille tout à fait normale si le traitement est mis en route à temps.
Est-ce qu'on peut préciser quelque chose d'important pour nos auditeurs ? Elles contiennent quoi ces piqûres d'hormones de croissance ? Parce qu'il y a eu une grande polémique il y a quelques années sur les hormones de croissance qui étaient prélevées sur des cadavres. Mmh. Aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a quoi comme produit à l'intérieur ?
Non, c'est de l'hormone de croissance, mais complètement synthétique. Donc, il n'y a plus aucun risque de maladie de Creutzfeldt-Jacob comme il y a eu le scandale dans les années 80.
Bien sûr. Jimmy ?
Est-ce que sur le moyen ou long terme, il y a des effets secondaires, sans parler de maladies graves, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on doit surveiller quand on est traité comme ça ?
Oui, alors il y a des choses que nous, on surveille. Alors, à l'initiation du traitement, il peut y avoir des signes assez mineurs, mais qu'il faut signaler pour voir comment on fait, comme des maux de tête, des réactions à l'injection du produit, des petites allergies, des choses comme ça. Ensuite, on surveille toujours régulièrement le taux de sucre dans le sang. Parfois, c'est rare, on peut avoir des petites anomalies à ce niveau-là. Et puis, on surveille de façon un peu plus rapprochée les pathologies de la croissance, notamment la scoliose. Ce n'est pas le traitement par hormone de croissance qui va donner la scoliose, mais il faut surveiller puisqu'on accélère la croissance. Et enfin, quelque chose d'un peu particulier qui de base est rare, mais un peu plus fréquent chez les enfants traités, c'est ce qu'on appelle l'épiphysiolyse de la tête fémorale. Donc c'est un problème de hanche qui peut survenir.
Sur le long terme, est-ce qu'on a du recul ? Est-ce qu'on sait si ça peut provoquer des pathologies diverses et variées chez ces enfants ?
Alors, c'est un sujet délicat. C'est un grand débat. On commence à avoir un peu de recul. Après, c'est un peu difficile de mettre en évidence parce que les indications sont tellement vastes et les enfants ont parfois des pathologies préexistantes, donc forcément
ça biaise un peu les
résultats. Globalement, les études sont un peu contradictoires. Il y en a qui disent qu'il peut y avoir une mortalité peut-être faiblement augmentée chez les enfants qui ont été traités, d'autres qui disent que non. Donc je pense qu'il faut savoir que c'est pas un traitement anodin, mais il y a rien qui ressort de façon très évidente aujourd'hui.
Juste pour terminer, ces enfants, ils peuvent espérer récupérer combien de centimètres, par exemple? Ils grandissent tout de suite, l'efficacité, elle est immédiate, ou est-ce que ça
prend... elle est assez rapide, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, si on n'a pas d'efficacité, c'est que avec une bonne observance, c'est que a priori le traitement n'en aura pas plus tard. Et alors pour le gain de taille, c'est vraiment ça dépend de l'indication. Comme je disais, les déficits profonds en hormones de croissance, on s'attend à rattraper une taille normale. C'est un peu moins clair chez les enfants, par exemple, nés petits pour l'âge gestationnel.
Merci beaucoup, docteur Amouyal, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a compris. Donc, finalement, par rapport déjà au nombre de parents inquiets à cause de la taille de leur enfant, seul un tout petit nombre ont réellement un problème. Et puis surtout que pour cela, il existe des solutions. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur le scorbut. Savez-vous ce qu'est cette maladie? À quoi elle est due? Comment elle se manifeste? Non? Eh bien c'est normal, c'est assez rare aujourd'hui. Et elle n'a pas disparu pourtant. Avant de vous en dire plus, Benjamin Lévesque, notre reporter, a été vous interroger sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Je pense que ça peut être une maladie, avoir un scorbut.
On va dire c'est du foot, c'est le score de nombre de buts.
On ne voit pas du tout quelle partie ou quel endroit ça peut être. Scorbut, un scorbut, pour moi, si c'est peut-être un os, ça serait, on va dire peut-être une partie au niveau du pied ou du mollet, je ne sais pas.
On a une carence en vitamine, il me semble que c'est vitamine C.
Qui rend fragile toute muqueuse, tout organe, une faiblesse dans le corps.
Ça peut être une maladie aussi liée à la vieillesse. Fréquent chez les nouveau-nés?
Les personnes qui sont en carence, je suppose, de vitamines, je pense que c'est la vitamine C. Grand sportif, peut-être, je sais pas.
Qui prennent pas forcément tout ce qui peut être jus d'orange ou jus de citron.
On le soigne par peut-être des injections de vitamine C, des pilules.
Alors Jimmy, d'abord le scorbut, puisque bon, c'est possible que des gens ne connaissent pas effectivement cette maladie, puisqu'elle avait quasiment disparu en tout cas. C'est une maladie très ancienne, hein, je crois.
Exactement, puisqu'elle sévissait de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. On appelait ça la maladie des marins, puisqu'elle faisait des ravages dans les équipages de marins qui partaient sur des navires pour de longs voyages en mer. Et c'est une maladie qui est mortelle si elle n'est pas traitée. Elle avait quasiment disparu, puisque sa cause est alimentaire. C'est lorsque vous avez un déficit en vitamine C, l'acide ascorbique, qui donne la maladie, le scorbut.
Il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes sur les bateaux au XVIIIe siècle, effectivement. Alors Jimmy, avant de nous expliquer pourquoi on la retrouve de nouveau de nos jours, certes rarement, mais dans certaines situations dont on va parler, est-ce que vous pouvez nous préciser les symptômes de ce scorbut?
Alors oui, évidemment.
Pourquoi
alors,
vous
voyez? Non, je vois derrière parce que je suis de bonne humeur. Voilà, ça vous étonne, mais je suis de bonne humeur aujourd'hui.
Ça vous arrive parfois.
Ce qu'il y a, le problème, c'est que les symptômes ne sont pas spécifiques. Ça commence par de la fatigue, une perte d'appétit. Vous pouvez être un peu angoissé, un peu déprimé, des douleurs articulaires.
C'est
un peu tout en ce moment, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Sauf que lorsque ce n'est pas traité, ensuite ça évolue vers des formes plus graves. Vous avez des problèmes dentaires assez graves avec des déchaussements dentaires, vous perdez vos dents. Et puis vous avez des pustules au niveau de la gencive, donc c'est vraiment pas sympa. Vous avez aussi des ecchymoses partout sur le corps avec des hématomes. C'est atroce en plus, je rigole. Et ça s'entraîne des saignements un peu partout. Et donc forcément, ça peut conduire à la mort. Mais heureusement, c'est pas drôle, désolé. Mais ça se soigne bien, heureusement. Et il faut éviter de l'avoir, vous avez compris quoi.
Oui, bah oui, c'est sûr. Alors pourquoi cette maladie est de retour, Jimmy? Arrêtez s'il vous plaît. Soyons sérieux deux minutes.
Oui, non mais c'est pas drôle. La cause en fait, c'est lié à la malbouffe essentiellement. C'est donc lorsque vous êtes carencé. Alors évidemment que nos modes alimentaires ne sont pas bons, et c'est quelque chose qu'on observe avec la malbouffe et qu'on a pu voir notamment.
Je m'inquiète pour vous du coup, vous dites la malbouffe. Je connais votre régime alimentaire.
Exactement. Il n'y a pas beaucoup de vitamine C dans les kebabs, mais néanmoins, c'est vraiment des populations particulières très fragiles. Ça va concerner par exemple des SDF, des personnes qui sont dans des prisons, ceux qui vont souffrir d'alcoolisme et qui vont avoir une alimentation très pauvre, notamment en fruits et légumes, et vont donc développer cette pathologie, encore une fois, qui est gravissime.
Donc on retrouve cette maladie chez des gens qui nourrissent vraiment très très mal. Mais la bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, c'est qu'une fois diagnostiquée, cette maladie, ça soigne vraiment très très bien.
Oui, vous manquez de vitamine C, donc le traitement, c'est de la vitamine C.
Bah tiens.
Voilà, c'est pas besoin de faire 10
Pendant
ans de médecine pour le savoir.
Quand même,
exactement, c'est une cure, on met 500 mg à 1 g par jour. En quelques jours, la maladie évolue bien, les organes seront traités et forcément vous aurez peut-être ou pas des séquelles. Et puis surtout, il faut par la suite avoir un suivi nutritionnel pour éviter d'avoir ça, puisque... Non, en plus, vous rigolez, Mélanie, je vais pas y arriver. Bref, il faut voir un nutritionniste ensuite pour éviter d'être de nouveau dans cette situation de carence.
Bon, et manger des fruits et légumes, on l'aura compris. Merci Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Il est toujours fidèle au poste, évidemment, c'est le docteur Jimmy Mohamed, prêt à accueillir tout de suite Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et qu'aujourd'hui donc vous allez répondre à cette question de Juliette. Je vous la lis. J'ai remarqué depuis un moment que lorsque je fais l'amour avec mon compagnon, je ne suis pas concentrée et je pense à d'autres choses comme mes rendez-vous professionnels et les tâches ménagères. J'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. Comment faire pour profiter pleinement du moment? Je pensais qu'elle a demandé comment faire pour pas qu'il s'en rende compte, mais non, c'est pas ça. Alors Catherine, est-ce que c'est fréquent les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui pensent à autre chose pendant qu'ils font l'amour?
Eh oui. Oui, bien sûr, parce que il y a, même si on aime son partenaire, il y a des tas de raisons de fuir le temps de la sexualité parce que justement, ça invite à une émotion qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir, à un partage que l'on n'est pas toujours prêt à accueillir. Parfois, on a beau être avec l'autre, on a envie de le fuir ou on a envie de fuir ce qui va se révéler entre nous. Donc du coup, bien sûr que toutes les occasions sont bonnes pour trouver des petites échappées par des pensées qui vont tout d'un coup là où est notre préoccupation, qu'elle soit professionnelle ou de l'intendance d'un foyer, par exemple.
Mais parfois, ce n'est pas pour fuir la sexualité, j'imagine, que c'est aussi juste parce qu'on pense au ménage. C'est ce qu'on appelle la charge mentale des femmes, notamment.
Oui.
Ce n'est pas qu'on veut fuir la sexualité, mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses à penser que c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire.
Alors, je ne disais pas fuir la sexualité par une volonté consciente de fuir la sexualité, mais d'une volonté tout à fait inconsciente. C'est-à-dire qu'on hiérarchise nos urgences et la sexualité n'est pas nécessairement notre urgence, ou si elle est en bonne position, elle suggère des émotions et des charges émotionnelles fortes qui s'adjoignent justement à la charge mentale forte.
Je dois prendre rendez-vous chez le pédiatre, je dois l'acheter du papier quand sont à trois, je dois l'acheter...
Mon Dieu, j'ai oublié ça, puisqu'enfin on se pose dans un lit, alors... C'est vrai, j'ai oublié, etc. Ouais. C'est une, ça montre aussi la dichotomie qu'on peut avoir, laisser poser ce corps et le laisser à l'autre pendant que soit on est en balade, en train de faire les courses ou en train de refaire du repassage.
Jimmy, vous qui repassez souvent.
Oui, mais non, pas tellement. Mais je crois que d'ailleurs que votre charge mentale du coup est très importante, Mélanie. Vous avez l'air d'être...
Non, ça va, moi, tout va bien.
Tout va bien, très bien. Est-ce que pour autant on est obligé d'être concentré pour prendre du plaisir? Est-ce qu'on a le droit de penser à autre chose et finalement que tout se passe bien? Et même peut-être que l'autre partenaire ne se rend même pas compte de ce qui se passe?
Mais de toute façon, il y arrive des moments où on pense à autre chose, voire à quelqu'un d'autre, sans que ce soit...
Ça, hein, quelqu'un d'autre,
c'est pas la question. Mais
sans... qu'elle pense aux courses qu'au voisin. Hein.
Ça, c'est un avis très personnel.
C'est
rassurant. Mais, en l'occurrence, parfois, non, mais c'est pas nécessairement fait sciemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement identifié. C'est une situation sexuelle qui peut amener justement à une liberté sexuelle dont profite pleinement le partenaire avec qui l'on fait l'amour. Donc en fait, c'est assez compliqué parce que notre cerveau fonctionne tout seul. Il n'est pas toujours, on ne le guide pas, on ne le dirige pas dans une direction tout le temps avec une concentration absolue. Il y a des moments où on y parvient, on est vraiment dans ce qui se joue et puis tout d'un coup, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que je devrais me lever? Est-ce que je peux continuer à faire l'amour? Tiens, il y a les voisins encore qui rentrent à point d'heure. Vous voyez, tous ces moments où on est sorti de la situation sexuelle par des préoccupations à l'extérieur. Mais après, évidemment, plus on a du plaisir dans ce qu'on est en train de vivre, plus on y revient. Et c'est vrai que c'est difficile en permanence. Hein. Quand nous nous parlons les uns et les autres, on est attentifs les uns aux autres. Et puis de temps en temps, hop, il y a une mouche qui est passée, notre pensée est allée ailleurs. Et plus on est attentif à ce qu'on est en train de vivre ou dans la nécessité d'y être, plus on va ramener notre conscience à la situation. Mmh. Et c'est vrai que nous avons... dans notre société, beaucoup de choses à penser, que nous voulons être sur plusieurs tâches ou plusieurs endroits à la fois et que nous peinons, d'où le fait que l'on parle beaucoup de prise de conscience de l'ici et maintenant, que l'on parle beaucoup de slow sex pour être dans l'ici et maintenant, être dans son corps et être dans la relation à l'autre pour le meilleur de la relation et le plus de jouissance.
Qu'est-ce qu'elle doit faire alors, Juliette, qui nous pose cette question? Elle dit, je crois qu'il s'en est rendu compte, comment faire pour profiter pleinement du moment? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil très pratique, peut-être?
Alors déjà, si elle croit qu'il s'en est rendu compte, ça veut dire qu'elle l'observe lui, plutôt d'être à l'intérieur d'elle. Je crois qu'il faut qu'elle réalise que ce n'est pas parce qu'il s'en rend compte qu'il faut qu'elle rectifie un peu le tir. Je crois que c'est qu'elle réalise que elle, n'étant pas là-dedans, il y a des choses qui ne se vivent pas. Et donc, du coup, c'est pas une grande invitation pour elle. Elle est là un peu au service de son partenaire. Et donc, ce qui est important, c'est justement qu'elle écoute, qu'elle se mette à l'intérieur de son sexe, qu'elle écoute ce sexe parler, ce sexe réagir, ce sexe s'émouvoir, ce sexe bouger, pour que justement elle soit au rendez-vous de ce qui se passe, pas au rendez-vous de lui, au rendez-vous d'elle, parce que c'est ça qui est important, c'est pas pour son compagnon, et plus elle sera à son rendez-vous, plus elle sera dans le lien de qualité avec lui.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on vous retrouve bien sûr demain, c'est la fin de cette émission, mais tout de suite on retrouve Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Aujourd'hui, Mélanie, vous aimez les comiques, vous en avez deux devant vous.
Bien sûr.
Mais on parle des grands comiques de l'histoire. Oui. Aristophane, Triboulet, le bouffon du roi, François
Ier. Et vous, vous avez
Ier.
Choisi qui?
Et moi j'ai choisi qui pour cette... cette...
Un
j'ai
grand
choisi
intellectuel.
Un grand intellectuel, un grand philosophe belge, Jean-Claude Van Damme, vous connaissez?
Ça va être génial.
Oui,
ça
vous fait rire.
C'est déjà... Mais je vois pas
j'ai même pas écouté que je rigole déjà. Donc
c'est très sérieux, c'est très sérieux.
Je vais rester pour rire encore un peu plus évidemment avec vous. Merci beaucoup et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.